Carly McGuinty, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe des politiques et programmes internationaux à UNICEF Canada et on vous joint du côté de Toronto, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Caroline, on est ensemble aujourd'hui pour parler de ce rapport de l'UNICEF que l'on nomme Bilan Innocenti 13, Équité pour les enfants. Et ce que l'on retient d'abord de ce rapport, c'est que le Canada est l'une des sociétés les plus inégales pour les enfants et les jeunes. Donc, en premier lieu, c'est quelque chose d'assez bouleversant, comme on dit, ça fesse, sachant qu'ici au Canada, on est un pays favorisé, un pays riche. En premier lieu, en quoi ça consiste, ce bilan de l'UNICEF lancé tout récemment?
Donc, c'est vrai, on a beaucoup de travail à faire au Canada. Et ce que l'UNICEF a fait, c'est qu'il y a 3 ans, on a mesuré le bien-être général des enfants qui vivent dans les pays riches comme le Canada. Et donc, quand on a mesuré ce bien-être général, on était situé au milieu. On était 17e sur 29. Mm-hmm. Puis là, on a approfondi cette recherche et on a comparé, pas le bien-être général, mais on a comparé les enfants qui sont au bas de l'échelle sociale comparé à ceux qui vivent la majorité, ceux qui sont au milieu de l'échelle qui vit des conditions normales de croissance. Et quand on a pris cette mesure-là, en se comparant aux autres pays riches, on a vu qu'on tire de l'arrière et qu'on est situé dans le tiers inférieur quand on se compare aux autres pays riches. Et puis, c'est troublant et on est ici pour en parler et pour aussi pour, proposer les solutions.
Oui, oui, parce que bon, mm-hmm. une fois le constat fait, c'est le fun de regarder en avant et de voir ce que l'on peut faire. Pour mm-hmm. ce rapport, vous vous êtes basé sur 4 aspects, Carly.
C'est ça. Donc, on a comparé parmi les pays riches comment les enfants vivent des inégalités en matière de santé, en matière d'éducation, de revenus familiales et de satisfaction à l'égard de la vie. Donc, on a regardé les données des sondages dans plus de 30 pays et pour voir comment on compare.
Ouais. Et ce que l'on constate, c'est que avec l'aspect éducation, là, mm-hmm. le Canada, on s'en sort mieux avec cet aspect-là.
Oui, c'est vrai. En ce qui a trait à l'éducation, je pense qu'on a bien investi au niveau, si on compare entre les provinces, je pense qu'on a assez bien investi. Il y a encore des différences entre les garçons et les filles. Par exemple, les garçons réussissent moins bien que les filles. Mais en général, on se situe très bien. Mais dans d'autres domaines, par exemple, dans la santé, surtout la santé mentale et la satisfaction à l'égard de la vie, on sort moins bien. Et on est très préoccupé ouais. par ces données parce qu'on sait qu'il y a un quart des enfants canadiens, donc 25 % des enfants canadiens, qui mènent une vie quotidienne en se sentant en mauvaise santé physique et mentale. Mmh. Et ça, je pense que ça devrait nous préoccuper comme une nation. Et aussi, quand on regarde les statistiques sur la satisfaction à l'égard de la vie, on est situé dans le tiers inférieur. Ça, c'est un résultat faible. Plusieurs de nos enfants canadiens ne se sentent pas bien, se sentent pas satisfaits de leur vie de façon quotidienne. Donc, on a du travail à faire. Et on voit aussi qu'il y a des différences entre les garçons et les filles. Les filles adolescentes se sentent moins bien au niveau mental que les garçons à l'âge de l'adolescence.
Mm-hmm. Tout à l'heure, Carline, je discutais avec le Dr Stanley Volant, un chirurgien ici au Québec qui est d'origine Innu et qui milite pour rencontrer les jeunes ici des communautés autochtones pour parler de habitudes de vie, de persévérance scolaire. Le rapport démontre aussi et témoigne que les enfants autochtones sont encore les plus défavorisés et les plus vulnérables.
Oui, ils sont parmi les plus vulnérables, ils sont parmi les plus défavorisés, mais ils ne sont pas seuls. Et il y a aussi d'autres enfants à travers notre pays qui réussissent moins bien. C'est des enfants qui ont une vie plus difficile, ils ont une moins bonne santé, de moins bons résultats scolaires, davantage de comportements à risque comme l'intimidation et des attentes et des aspirations plus limitées parce que on se soucie moins d'eux. Donc, ça peut être des enfants de familles qui viennent juste de se joindre au Canada. Ça peut être des enfants qui vivent dans des situations où les parents travaillent peut-être 2 emplois chaque. Ils passent moins de temps avec leurs enfants. Peut-être que c'est des enfants où ils font face à l'intimidation de façon quotidienne. Donc, ce ne sont pas juste seulement les enfants autochtones. Il y en a plusieurs parmi le pays qui mm-hmm. souffrent.
Maintenant, Carline, comment on peut expliquer ce recul-là du Canada en matière d'inégalité pour nos enfants?
Il y a deux facteurs, je pense, importants. Donc, dans des domaines, c'était assez stable et dans d'autres domaines, on a vu un recul. Et je pense que quand on regarde la comparaison entre nous et les pays riches, on a fait des choses que les autres n'ont pas fait. Donc, premièrement, avec les inégalités globales de revenus, ça a augmenté dans les 10 dernières années, mais la pauvreté de l'enfant a persisté. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé à travers le pays. Mais aussi, on n'a pas investi autant que les autres pays pour stimuler les revenus familiaux et offrir suffisamment de services à l'enfance de qualité, comme des services de garde, comme des programmes de développement du jeune enfant, ce qu'on a vu se faire dans d'autres pays riches. Donc, parce qu'on n'a pas fait cet investissement-là, on a vu un recul.
Donc, une façon de réduire les écarts serait de meilleurs investissements et des programmes mis de l'avant.
Oui, absolument. On doit investir plus tôt et on doit investir davantage. Les inégalités en matière du bien-être de l'enfant s'accumulent à travers la vie d'un enfant.
Ouais.
Et par le temps que cet enfant vulnérable fait sa transition à la vie adulte, c'est très difficile pour eux. Ils ont moins de chances d'obtenir un diplôme d'études secondaires, plus de difficultés pour trouver du travail et de contribuer de façon positive à la société, on va voir ce cycle se répéter. Donc, c'est pour cela qu'on doit investir tôt.
Oui. De façon plus concrète, Carline, est-ce que l'UNICEF, et en terminant, il nous reste une minute et des poussières, est-ce que l'UNICEF a des recommandations claires et concrètes envers le gouvernement Trudeau?
Oui. Donc, premièrement, on est très content qu'ils ont passé la prestation pour les enfants. Donc ça va aider les revenus des familles, surtout des familles à faible revenu. Donc ça, c'est une très bonne chose. On veut que ça continue. Au niveau de la santé, on doit faire plus pour assurer que les enfants et les familles les plus vulnérables ont facilement accès à des aliments sains et abordables. Aussi, on a besoin d'une stratégie nationale de la petite enfance. Il semble que le gouvernement Trudeau va s'y mettre et ça, c'est une bonne nouvelle.
Ouais.
Et quand ça traite la satisfaction à l'égard de la vie, il faut faire mieux. On doit aussi mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de nos enfants. On a besoin de meilleures données et d'un meilleur suivi.
Carline,
parmi les choses qu'on doit avoir mis en place.
Merci beaucoup, Carline. C'était une façon extrêmement claire et concise de présenter ce bilan Innocenti 13. Je rappelle, vous êtes directrice adjointe des politiques et programmes internationaux à UNICEF Canada. Eh bien, salutations du côté de Toronto.
Merci, Marianne.